Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
10h02 sur RKS, bienvenue dans l'esprit grenoblois à 11h. Ah, il faut que je recommence, je crois, parce que j'avais pas l'antenne. Eh ben, 10h02 et 40 secondes, bienvenue sur RKS, l'esprit grenoblois. À 11h, nous mettrons les petits plats dans les grands, dans la cuisine de Francis. Mais là, tout de suite, place aux sciences dans la société.
Ils animent des MOOC, se mettent en scène, inventent des expositions, publient des essais, voire des romans. Ils animent des MOOC, se mettent en scène, ce sont les acteurs de la connaissance qui veulent toucher le public, faire comprendre, dialoguer et alerter.
Alors à Noël, nous traquons le véritable esprit de Noël. On aime aussi ici parler du véritable esprit de la fête de la science. Eh bien aujourd'hui, nous traquons ensemble le véritable esprit grenoblois avec notre invité Yves Exbraya. Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Il revient de chez sa belle-mère en Haute-Savoie, c'est Jérôme qui nous réalise. Le Miroir des Sciences, c'est chaque semaine une rencontre avec des personnes qui nous rendent la science plus facile, plus proche. Ils nous parlent de leur passion et partagent leur savoir, bien sûr. Ils nous parlent aussi d'eux et de leur parcours. Ils et elles sont chercheurs, mais aussi médiateurs et surtout pas bonimenteurs.
Nous nous intéressons avec vous aux meilleures façons d'apprendre, de comprendre sans se faire emberlificoter dans des croyances ou de fausses nouvelles.
Au cours de l'émission, nous passerons un coup de fil à Emma Hollen, qui est journaliste scientifique. Elle s'intéresse aux mystères de l'univers, une bonne façon de lever les yeux au ciel quand la crise nous fait baisser la tête. Et nous parlerons aussi avec Karine Froment, qui est directrice d'un laboratoire qui restaure des œuvres d'art et des objets du patrimoine grâce au rayonnement gamma. Mais oui, Jérôme, au rayonnement gamma. Karine ouvre les portes de son laboratoire à l'occasion des journées du patrimoine. Et puis nous aurons aussi l'honneur, le plaisir, l'avantage d'avoir la toute première chronique de Damien Boévin à ce micro. Ce sera dans un instant, nous évoquerons l'écotourisme en 2030.
N'oubliez pas, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir ou nous défier en utilisant la page Facebook de RKS.
Romancier spécialiste du développement économique et du marketing territorial, il s'est intéressé à l'innovation par les usages et au développement économique de la métropole grenobloise. Il a créé la Maison de la Montagne, il a aussi développé des rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, je parle sous votre contrôle, hein. Randonneur, skieur de l'Amérique latine à l'Himalaya, il dirige l'office du tourisme de la métropole grenobloise depuis 2013, c'est Yves Exbraya qui est l'invité du Miroir des Sciences ce matin.
Bonjour Yves Exbraya.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites le samedi matin à 10h d'habitude?
Je suis rarement à la radio le samedi matin, je suis plutôt...
Au marché?
Il m'arrive d'être au marché quand il fait mauvais, sinon je suis en montagne ou sur mon vélo.
Vous êtes le patron de l'Office du tourisme de Grenoble-Alpes-Métropole.
Oui, le directeur.
Voilà, le directeur, pardon. Alors, le tourisme, il y a le voyage pour se dépayser, il y a la rencontre pour se sociabiliser. Il y a la médiation pour apprendre. Le tourisme, c'est quoi pour vous?
Le tourisme peut se faire hors long voyage, hein, c'est ce qu'on a pu éprouver cet été. Le tourisme, en fait, c'est effectivement la découverte de champs qu'on n'a pas l'habitude d'explorer d'habitude. C'est-à-dire que le tourisme, c'est une façon de se... Originairement, c'est faire un tour, mais ça peut être un grand tour ou un petit tour. Et ce tour nous permet de sortir de son carcan professionnel, nous permet d'explorer d'autres choses, de voir d'autres gens. Le tourisme, c'est aussi la rencontre. Et c'est pas simplement aller de site en site rapidement. Je pense qu'une bonne façon de faire du tourisme, c'est faire du tourisme expérientiel, c'est-à-dire de vraiment s'immerger dans d'autres domaines que ceux dont on a l'habitude.
Alors la notion de tourisme a évolué à travers les âges, à travers le temps et ces dernières années également. Slow, fast, comment feront les touristes du futur? Est-ce qu'ils viendront d'aussi loin?
Non, probablement plus tard, peut-être lorsque les moyens de transport seront enfin, qui permettent les longs courriers seront restaurés et probablement rendus plus propres. Aujourd'hui, je pense qu'avec la crise sanitaire
qu'on a connue... Vous êtes optimiste.
Oui, non, mais j'essaie d'être optimiste. Ceci dit, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui a été créée par cette crise sanitaire où on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la peine de faire des tours du monde, surtout en 3 semaines, comme font certains des touristes dits gros consommateurs, et qu'on pouvait, et c'est ce qu'on a vécu à Grenoble, faire du tourisme près de chez soi, ou voir du tourisme chez soi.
Oui, on est bien chez soi, finalement.
On est bien chez soi, d'autant qu'on connaît rarement chez soi, et qu'on a l'habitude, quand on part de chez soi, d'aller explorer des choses qu'on n'explore pas chez soi. Et là, effectivement, on a pu se rendre compte, nous, avec nos visites guidées, qu'on avait énormément de Grenoblois qui venaient pour découvrir leur territoire, et surtout découvrir un patrimoine dont ils méconnaissent tout.
Voir leur propre domicile. Hein. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, à la sortie du confinement... On a redécouvert notre maison, notre jardin.
Alors, oui.
Certains ont redécouvert leur cuisine aussi.
Exactement.
Oui, alors après, on peut pas faire du tourisme le fourre-tout de tout, mais quand on parle de tourisme, effectivement, on parle d'exploration. Et là, effectivement, explorer sa cuisine, est-ce que ça peut être du tourisme? Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là.
Non, mais quand vous parliez de se décentrer par rapport à ses habitudes, etc., ça peut être aussi lire un livre sur lequel on est tombé par hasard ou se lancer dans une recette de cuisine audacieuse un peu compliquée, les œufs en meurette, par exemple.
C'est vrai. Et je crois que c'est aussi l'occasion de se redécouvrir soi-même. On dit toujours que je ne sais pas qui a dit d'ailleurs, Gilles, que voyager ou faire du tourisme, c'est aller de soi vers soi en passant par les autres. Eh ben, c'est un petit peu ça, et on n'est pas obligé d'aller si loin que ça.
Alors Yves Ex-Brayen, merci d'être avec nous au Miroir des Sciences sur RKS ce matin. Je vous présente Damien Bouévin, mais peut-être vous connaissez-vous déjà, je ne sais pas.
Vous êtes non, c'était la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui.
Donc Damien est fondateur et animateur de l'association Néméthone, qui est un biolab, une association de diffusion de la culture scientifique dans le domaine de la biologie et des biotech, c'est ça?
Hein? Ouais. C'est ça, on fait ce qu'on appelle de la médiation culturelle scientifique dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de l'environnement.
Et voilà, et donc on lui a proposé de venir de temps en temps chroniquer avec nous à l'heure du marché le samedi. Voilà, et donc il nous propose quelque chose justement qui est relatif à l'écotourisme avec une fiction pour 2030, je crois.
C'est ça, on va s'éloigner un instant de ce mois de septembre de cette année 2020. Le soleil arrive et alors que commence d'ores et déjà à s'installer une généreuse quarantaine de degrés sur tout le territoire français, une question commence à se poser dans tous les esprits. Que faire en ce bel été 2035? Eh bien pour vous, chers auditeurs et auditrices, nous sommes allés au cœur des Alpes dans le désormais fort connu Alpine Wild Park.
Ah oui, c'est le fameux fer de lance de l'or vert en France.
Tout à fait, François, le fameux écotourisme. On ne va pas se mentir, la transition de l'or blanc à l'or vert au cours de la décennie 2020-2030, c'est parfois passé dans la douleur au sein des Alpes françaises. Mais une chose est sûre, avec ses 1,5 million de visiteurs et visiteuses l'année dernière, Alpine Wild Park a su transformer l'essai.
1,5 million, mais dites-moi, il fait quelle surface ce parc ?
Sur ses 2000 hectares, cette réserve de la vie sauvage a réussi le pari de faire partie du programme Rewild Europe, tout en ayant un très fort aspect touristique. Pour rappel, le programme Rewild Europe est un programme européen qui vise à faire un réseau de réserves de la vie sauvage reliées entre elles par des corridors écologiques. Ici, effectivement, François, vous ne croiserez ni chasseurs ni patous. La seule activité humaine tolérée dans le parc, c'est la visite. Et quelle visite ! Ici, point de randonnée à l'ancienne, non. tout à la fois dans une volonté d'accessibilité physique, de démocratisation et de protection de la réserve vis-à-vis du nombre élevé de visiteurs et visiteuses, ce sont des dizaines de voiturettes électriques tout-terrain et autonomes qui sillonnent le parc jour et nuit suivant une quinzaine de parcours thématiques différents. À bord de ces véhicules, des casques de réalité augmentée vous permettront de voir superposés à votre champ de vision tout un tas d'informations sur la nature qui vous entoure. Le cri d'un oiseau fera apparaître une fiche sur l'espèce qui se cache derrière. Les couches géologiques des montagnes environnantes se pareront d'informations scientifiques. Des aides visuelles vous aideront même à repérer dans le décor environnant les animaux à proximité. Bref, la montagne n'aura plus de secret pour vous.
Ok, mais une fois qu'on a fait le tour de la réserve, est-ce que le parc propose autre chose ?
Eh bien, si vous et votre famille n'êtes toujours pas rassasiés, pas de problème.
Je ne suis jamais rassasié, sachez-le.
Il y a largement de quoi occuper toute la petite
famille. Ni de culture, ni de confiture.
On y trouvera une nurserie des animaux pour les petits, du survol du parc en réalité virtuelle depuis le point de vue d'un drone pour vos adolescents. Et effectivement, si vous aimez bien manger, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir profiter d'un restaurant avec vue panoramique sur tout le parc.
Bah, ça s'impose quand même hein, dans n'importe quel complexe touristique.
Ah bah oui, le fameux restaurant.
Sustenter le chaland.
Où vous trouverez une large gamme de produits locaux des Alpes dans la plus grande tradition alpine. Alpine Wild Park propose de nombreuses activités pour toute la famille. À noter, cette année, une nouveauté et non des moindres, l'introduction au sein de la réserve d'un troupeau de 30 véritables aurochs. Oui, de véritables aurochs, ces animaux préhistoriques, ancêtres de nos vaches actuelles. Ces aurochs sont le résultat de plus de 20 ans de reconstitution de l'espèce par croisement dans le cadre du programme international Tauros. Leur présence au sein de la réserve va permettre d'augmenter le nombre de prédateurs dans le parc. Imaginez un peu pouvoir assister à l'attaque d'une meute de loups sur un troupeau d'aurochs. Auroch tout à fait capable de répliquer et de se défendre. Une véritable scène de la vie sauvage, comme on n'en avait pas vu en France depuis au moins 4000 ans. Que d'émotions en perspective.
Et pour se remettre un peu de ces émotions fortes, de ces micro-aventures.
Vous pourrez, après ça, le soir...
Enfin, micro-aventure pour nous, hein, pas pour les Auroch. Hein. Merci pour eux.
Si le cœur vous en dit, le soir, vous pourrez vous remettre de ces émotions autour d'un spectacle traditionnel avant de rejoindre l'un des différents hôtels du parc que l'on peut trouver en bordure de la réserve. Pour terminer cette chronique, pour un séjour de 2 jours et de 2 nuits au sein de Alpine Wild Park, il vous en coûtera en moyenne environ 250 euros par personne. Sur ce, je vous souhaite un très bel été, une très belle année 2035 et à bientôt, très bientôt pour une nouvelle chronique.
Ah bah il est super, hein, il fait la vente et la pré-vente de son projet. Yves Exbraya, directeur de l'Office du tourisme Grenoble-Alpes-Métropole, est avec nous ce matin. Ça vous tente le projet que vient d'exposer Damien ?
Clairement, pas du tout. En fait, c'est une transposition de la montagne équipée aujourd'hui à demain, à propre, effectivement, probablement beaucoup plus pauvre. Encore que, on parle de station de ski L'Or Blanc. Oui, L'Or Blanc amène énormément de tourisme de masse. Et quand on fait le point sur les niveaux de pollution induits par les stations de ski, on s'aperçoit que 30%, que 60% c'est les transports pour y aller. Presque 40% c'est les passoires thermiques de l'habitat et 1 à 2% c'est l'exploitation et la fabrication de neige de culture, damage d'épices, etc. Ouais. Donc c'est pas là qu'il est le problème.
Donc c'est pas l'activité en tant que telle qui génère.
Surtout qu'il y aura plus de neige, il faudra bien créer pour les gens qui aiment ce genre de loisirs, des loisirs comme celui-ci. Donc je conçois que ça puisse exister, mais je ne serai pas consommateur personnellement.
Il y a certains prescripteurs de lieux touristiques qui mettent en avant une contradiction inhérente à leur pratique en constatant que le tourisme de masse abîme bien souvent les lieux justement qu'ils recommandent, sans parler des conséquences sociales pour les populations locales, l'empreinte carbone, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut encore conseiller aujourd'hui d'aller tout voir, de se déplacer sans limitation. Et quel est l'avenir pour le tourisme mondialisé?
Oui, alors, effectivement, je crois que c'est compliqué de continuer à prôner ce type de tourisme parce qu'on ne va pas au fond des choses. Effectivement, on a une empreinte carbone qui est très importante pour un degré de satisfaction qui, à mon avis, est totalement insuffisant. Et moi, quand on prône, nous, le tourisme expérientiel, c'est plutôt aller sur une destination pour en faire vraiment la connaissance en profondeur au plus près des gens, plus près de la culture, plus près des loisirs de proximité. Mais effectivement, le tourisme de masse, que ce soit en croisière ou autre, qui permet de survoler complètement, enfin de survoler en croisière, c'est peut-être pas le cas, mais enfin de voguer de ville en ville en s'arrêtant 2 heures, en gros, ça, je pense que c'est vraiment le tourisme du passé. Et le tourisme de masse du passé. Alors, il peut être remplacé par un tourisme de masse tel que celui que décrit Damien, qui sera probablement plus éthique, mais c'est un peu sous la contrainte. Moi, quand je vais en montagne, j'aime bien y aller tout seul et j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire et j'ai pas trop envie qu'on m'impose des voiturettes électriques et des choses comme ça. Mais après, je conçois que ça puisse être dans l'air du temps prochain, j'en sais rien. En tout cas, mais c'est pareil, le grand cirque, il est aussi en Himalaya, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
On revient dans un instant pour la suite de cette conversation. Vous écoutez RKS, l'esprit grenoblois, c'est le miroir des sciences. Notre invité, c'est Yves Exbraya, intarissable visiblement, enfin, on va le voir dans la prochaine séquence. Donc Yves Exbraya, le directeur de l'Office du tourisme Alpes-Grenoble-Métropole.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Il est 10h21, vous êtes sur RKS, l'esprit grenoblois, et vous écoutez le miroir des sciences. C'était Alice Merton, No Roots, No Racines. Yves Exbraya, est-ce que vous avez des racines et quelles sont-elles?
Moi, j'ai des racines multiples, oui. Des racines essentiellement françaises, d'ailleurs. Plutôt auvergnates du côté de mon père, et plutôt dauphinoises du côté de ma mère, et en passant par l'Alsace.
Et quand on fait du tourisme, il faut ouais. avoir des racines, il faut être conscient de ses racines.
Oui, peut-être. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question. Je fais du tourisme bois avec mes propres racines. Est-ce que je m'appuie sur mes racines pour faire du tourisme? C'est pas sûr. Je ne saurais pas vous répondre. C'est beaucoup trop savant comme question scientifique.
J'en suis vraiment désolé. Comment évolue le tourisme professionnel face à la crise et aux contraintes de confinement, aux contraintes sanitaires?
Alors, le tourisme d'affaires, en fait, c'est-à-dire les manifestations, les rencontres, les congrès, ce qu'on appelle le MICE, nous, on est très très inquiet pour ce tourisme-là, parce que, en tout cas, à court terme, on sait qu'il y a très peu d'événements qui vont avoir lieu, où que ce soit dans le monde. Et nous, à Grenoble, on a dû laisser tomber Montaigne Planète, on a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. En revanche, ça permet aussi de réfléchir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de congrès et qui remplissaient nos hôtels, et l'inquiétude, elle est devant nous, c'était pas l'été, mais c'est l'automne et le printemps qui arrivent. On est assez inquiet par rapport à l'économie locale, mais si on réfléchit bien, on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on a trouvées là à travers des rencontres importantes comme des gros salons ou des gros congrès, parce qu'on a fait quelques explorations via les visioconférences qu'on a beaucoup utilisées pendant le confinement pour se rendre compte qu'il y avait d'autres façons de se rencontrer. Alors c'est vrai que les moments de convivialité sont importants, il faut se voir, mais quelquefois c'est pas indispensable de faire le tour de la planète pour un congrès.
Alors figurez-vous que moi la semaine dernière j'ai suivi un congrès scientifique qui s'appelle Electronics Goes Green, qui était proposé à Berlin normalement en présentiel et qui disait de turns to digital. Voilà. Et alors en fait, vous arriviez sur la plateforme et il y avait un plan comme on vous le donne, vous arrivez sur le campus avec les endroits de restauration, les différents amphis, etc. Donc c'était tout sur votre écran et vous cliquiez. Donc vous aviez la réserve de vidéos évidemment pour suivre les exposés avec les différentes thématiques. Donc ça, c'est assez attendu. Il y avait des sessions live dans un grand amphi qui était retransmise aussi en vidéo. Il y avait des documents écrits. Et puis, il y avait le restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans le restaurant? Des petites recettes, des petits conseils. C'était supplémentaire dans ce congrès scientifique. Et puis, il y avait aussi l'espace détente. Et là aussi, il y avait une promesse. C'est que tous les jours, 2-3 fois par jour, ils postaient une petite vidéo avec comment se détendre un petit peu les lombaires. Parce que quand on est penché sur l'écran toute la journée, on est... pour regarder un congrès en numérique, on a un petit peu mal au cou. Hein, quand même. J'ai trouvé que le système était quand même assez élaboré.
Oui, alors je faisais effectivement référence à ce type de choses et nous-mêmes nous organisons un workshop tous les 2 ans et cette année il sera totalement hybridé. On va garder un moment de convivialité avec moins de gens mais quand même, parce que je crois que la rencontre est importante, mais je pense qu'on peut vraiment limiter, et comme vous le disiez tout de suite, on peut limiter le présentiel lorsqu'on a des plateformes qui sont complètement, complètement dédiées. Et nous, on va explorer aussi, enfin expérimenter une plateforme qu'on a mise au point avec le PCO de Grenoble, Inside Outside, pour voir comment on peut transformer les stands en stands virtuels, avoir des rendez-vous en ligne plutôt que des rendez-vous présentiels. Et franchement, si on arrive... pas intégralement, parce que je crois que les moments de rencontre sont bons, mais à limiter... l'impact carbone de toutes ces congrès internationaux, ce serait pas si mal.
Sébastien Verger.
Oui, on trouve effectivement des solutions pour pallier les difficultés de déplacement actuelles, plus ou moins satisfaisantes. Néanmoins, l'économie du tourisme va devoir s'adapter et évoluer fortement.
Ouais. Bien sûr, mais je pense que c'est une mutation qu'il faut anticiper, qui sera lente. On ne peut pas tout changer aujourd'hui. On a des modèles économiques qui sont en place, on a des gens qui vivent de certains métiers et qui ne peuvent pas en changer du jour au lendemain. Donc il y aura des incidences effectivement sur l'économie et je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Et je crois que les changements de modèles radicaux relèvent de l'utopie. Et l'utopie, c'est très intéressant sur le projet final, mais le chemin pour y arriver, il est quand même très chaotique.
Oui, il n'est pas évident, effectivement.
À propos d'utopie, on voudrait vous faire rencontrer, au moins de façon audiophonique, on dit, un personnage qui s'est mis cette année. Il avait défini son projet avant le confinement, mais ça a continué. Donc, elle parcourt le territoire à la recherche de lettres d'amour au territoire. On va l'écouter tout de suite, c'est Hélène Michel dans la chronique Le Monde qui vient.
« Pour moi, cette crise, c'est l'occasion de faire une pause et de se projeter dans notre nouvelle façon de fonctionner, que ça soit à titre professionnel ou personnel. Donc, ça peut être une pause pour repartir de plus belle ou ça peut être une pause pour travailler et fonctionner différemment.
Hélène Michel, vous êtes chercheure à Grenoble École de Management et en ce moment, vous investiguez la question des nouvelles modalités du tourisme à l'aide d'une sorte de piano à écriture que vous transportez parfois dans les montagnes, parfois sur votre dos, parfois en parapente. Qu'est-ce qui vous motive professionnellement ?
Aujourd'hui, je m'intéresse à la micro-aventure, c'est-à-dire l'art de remettre du merveilleux dans le quotidien. Et le contexte y est propice puisque certains d'entre nous vont passer les vacances sur leur propre territoire. Ça s'appelle le staycation, où on passe les vacances chez soi. Mais pour remettre du merveilleux, il faut prendre une autre paire de lunettes et regarder ça différemment. Une façon de regarder les choses avec un regard d'enfant, c'est de décaler. Et pour décaler, j'apprends un objet qui est un bureau, mais un bureau mobile avec une forme assez incroyable qui rappelle peut-être un élément de carlingue d'avion qu'on aurait pu trouver dans un lac des Alpes et une vieille machine à écrire. Et au lieu d'interroger les personnes sur ce qu'elles ressentent avec un questionnaire, je leur propose d'écrire et de taper à la machine une lettre d'amour au territoire. Et donc, je promène ce dispositif effectivement avec moi sur le territoire au plus proche. Donc, parfois, ça veut dire à pied, à dos d'homme ou de femme vaillante. Parfois, c'est avec un vélo. Quand je suis passée à Saint-Hilaire, j'ai rencontré les champions de la Coupe Icare qui m'ont proposé de faire un tour de bureau volant. Et on est allé emmener le bureau sur d'autres sommets. Et on peut régénérer une situation en mettant, par exemple, des contraintes en créativité, que j'enseigne également, la créativité, elle se nourrit d'une contrainte. Et si tout ça était la nuit ? Et si tout ça était low-tech ? Et si tout ça était à distance ? Eh bien, comment on peut se saisir d'une contrainte pour en faire un défi, une façon de voir les choses différemment ? Et aujourd'hui, je pense que l'esprit-jeu peut rebattre les cartes. Prenons un exemple, peut-être dans notre vie quasi quotidienne, quand on passe par une gare, aujourd'hui, ça nous semble presque normal de voir un piano au milieu d'une gare, alors que c'est un objet incongru, mais qui, dans cette gare, va amener un élément de merveilleux, c'est-à-dire qu'il va changer la fonctionnalité de cet espace, peut-être détendre les personnes, changer la perception du temps qui passe. Cela peut être aussi rassurer les gens, faire peut-être baisser aussi le nombre d'incivilités en créant un autre moment.
Quand on vous cherche sur Internet, on trouve par exemple une vidéo TEDx que vous aviez enregistrée à Issy-les-Moulineaux en 2018 où vous parliez de remettre le monde en jeu. Alors, il est comment le monde qui vient selon vous ?
Le jeu avant tout, c'est créer un cercle magique dans lequel on se sent protégé. On peut explorer dans ce cercle magique et puis du coup révéler peut-être certaines facettes de nous que nous n'avions pas l'habitude de mettre en avant.
Ilex Braillat, le ludique, le merveilleux, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le tourisme
oui, ici oui, à Grenoble et l'expérientiel. C'est-à-dire ludique et le merveilleux, à condition qu'on ne nous l'impose pas. Mais effectivement, ce que dit cette dame...
Hélène Michel,
ouais. Fait vraiment appel à la créativité de chacun. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui quand on a des propositions de séjours touristiques packagés, on est à 100 lieues de ça, il faut vraiment y revenir.
Alors Hélène Michel, si vous voulez faire sa connaissance, elle participe au festival Ça remue autour du musée dauphinois du 15 au 17 octobre. Il paraît que ce festival, je cite... associe des porteurs de savoirs scientifiques, artistiques et vernaculaires qui questionnent les usages du monde et les redéploient joyeusement. Les arts et la science, c'est une thématique qui vous intéresse ?
Ah bah absolument, on travaille assez souvent avec l'atelier Art Science justement, avec lesquels on a des partenariats. Je pense que c'est vraiment ça a du sens, quoi. L'art et la science ensemble, ça a du sens, et notamment pour apporter des connaissances de manière plus globale.
Alors, à ce point de la conversation, c'est intéressant de mentionner le fait qu'il y avait hier la présentation à l'Hexagone, à Mélan, qui est donc la scène nationale Arts et Sciences, couplée avec cet atelier Arts Sciences. présentation de la saison, en tout cas pour les trois mois qui viennent. Ils ont fait un bel effort pour réhabiter le théâtre et réinviter le public avec une proposition très intéressante que j'invite tous les auditeurs à parcourir sur Internet en trouvant l'Hexagone.
Et nous en faisons beaucoup la promotion. Hein. Fort pour le coup, on est quand même très, très alliés avec ces problématiques.
Alors, nous aussi, au Miroir des Sciences, on a nos méthodes pour décentrer les gens et puis leur faire toucher des objets de médiation. Donc, vous avez devant vous la collection des miroirs de l'émission. Ce sont des petits miroirs qui, fort heureusement, tiennent dans une petite pochette que j'amène à chaque numéro du magazine. Un miroir, c'est un objet du quotidien, mais c'est aussi un défi technologique à réaliser, puis c'est l'instrument scientifique par excellence. Donc vous en avez de toutes sortes. L'idée, Yves Exbraya, c'est que vous en choisissiez un, que vous le décriviez pour nos auditeurs et que vous nous disiez ce qu'il vous inspire.
Le miroir de ma grand-mère. Non, mais j'ai pris vraiment le miroir.
C'est un petit miroir à maquillage, on va dire, non ? Comment on appelle ça ?
Oui, et puis c'est surtout un miroir du passé. Et je pense que c'est intéressant, ces objets patrimoniaux, pour se recentrer, nous, par rapport à ce qu'on est, c'est intéressant d'aller explorer, effectivement, peut-être pas ses racines, mais en tout cas, l'histoire. Et pour moi, ce miroir est intéressant parce qu'il représente une histoire du début du XXe siècle. Et moi qui travaille pour le patrimoine de Grenoble, ça fait sens, voilà, par rapport à un certain nombre de vestiges ou simplement de monuments patrimoniaux qu'on a en ville.
C'est celui-là
que vous avez choisi. Il me rappelle un peu le passé. Alors, s'il y avait le miroir du futur, là, mais il n'y est pas. Donc, je les aurais mis en parallèle.
Donc, on a quand même des miroirs de laseristes, là, qui sortent des laboratoires plus pointus.
En fait, j'y connais rien.
Ne touchez pas la clochette quand je vous parle des miroirs de laser.
Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'était une clochette pour nous dire de sortir de table.
Mais elle a aussi des parois réfléchissantes. C'est pour ça qu'elle fait partie de la collection. Vous nous parlez un peu de votre parcours qui est très riche, vous n'avez pas fait un parcours linéaire, vous n'êtes pas rentré à l'office du tourisme à l'âge de 20 ans.
Non, j'y suis rentré à l'âge de 59 ans. Et j'ai jamais travaillé dans le tourisme avant. Non, j'ai une formation d'économiste, moi, avec un Sciences Éco, Sciences Po, enfin la tradition, quoi. Et j'ai fait tous les métiers, dont pas mal d'années à mon compte en tant que consultant, mais j'ai beaucoup conseillé des collectivités territoriales, j'ai fait un peu de commerce international, mais j'ai surtout fait de la montagne, eu des loisirs et notamment de voyages qui m'ont personnellement enrichi, alors pas financièrement, mais ça m'a permis effectivement d'entrer dans ce métier du tourisme avec une vision très différente de celle de pas mal de mes homologues. C'est-à-dire que je suis passionné par mon territoire, donc je travaille pour le tourisme dans mon territoire, et j'aurais jamais fait ce métier dans un autre territoire que je ne connais pas, ce qui est quand même très différent d'un cursus de directeur d'office de tourisme. Et en fait, et le voyage pour moi est important, et c'est pour ça que je me transpose dans la peau d'un touriste pour essayer de comprendre ce qu'il faut leur offrir. Et c'est pour ça que le tourisme de masse, tel que Damien le décrivait, c'est quelque chose qui m'est très étranger, parce que même quand je voyage, moi, j'essaie de le faire différemment. Et on parlait d'Himalaya tout à l'heure. Je suis allé en Himalaya souvent. J'ai jamais imaginé à l'Everest, qui est un grand cirque. Et là, c'est du tourisme de masse, où il n'y a bientôt plus d'alpinistes, mais il n'y a que des touristes qui payent très cher. Moi, quand je vais en Himalaya, je préfère aller sur des 7000 que sur des 8000. Je préfère faire de l'exploration, aller sur des sommets qui sont
peu parcourus
ou vierges. Et comme ça, au moins, on a une histoire qui est très personnelle.
Alors la montagne, c'est effectivement une grande passion pour vous. Vous avez contribué à créer les rencontres du cinéma de montagne à Grenoble.
Oui.
La prochaine édition, la 22e édition, aura lieu du 3 au 7 novembre, ici à Grenoble. L'événement ne se déroule pas au Palais des Sports comme d'habitude, mais sur différents sites de l'agglomération. Une quinzaine de salles seront partenaires et ont accepté de soutenir l'événement. ça vous permettra d'accueillir beaucoup de monde finalement, environ 2000 personnes, comme vous l'annoncez.
Alors, moi, je ne suis plus dans l'organisation. J'avais été effectivement à l'origine de ce qui s'est passé au Summum, puis au Palais des Sports. Pour moi, ça va être quand même difficile, parce que l'esprit des rencontres, c'est une rencontre. Et là, il y aura des multi-rencontres. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer, et je trouve que mes successeurs, pour le coup, ont beaucoup de mérite à organiser un truc aussi compliqué, mais j'attends de voir pour savoir si c'est effectivement ça a le même sens. Je sais pas, en tout cas, c'était bien de le maintenir comme ça, mais ce sera très compliqué, et je crois que l'esprit de la rencontre, eh ben, il va falloir qu'il se crée autrement.
Vous avez parcouru donc de nombreux pays, comme vous l'avez dit, vous avez un horizon très large. Est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile, quand vous revenez à Grenoble, de devoir valoriser par votre métier, par votre position, un territoire si petit, si étroit ?
Non, pas du tout. Ce n'est pas un territoire petit et étroit. Je trouve que le territoire grenoblois est au contraire un territoire richissime en termes de diversité urbaine. Enfin, c'est la seule métropole quasiment européenne, à part peut-être Oslo et plus petit Innsbruck, c'est la seule grande métropole européenne au milieu de ces montagnes. Et on a un territoire qui est tellement, tellement riche, avec et les deux pieds de Grenoble, entre la culture scientifique et la montagne, nous permet d'avoir, et puis la culture tout court, avec un patrimoine de 2000 ans d'histoire. Vraiment, Grenoble, c'est quelque chose qui est très important et très méconnu aussi. Je crois qu'il faut qu'on valorise davantage l'idée de l'innovation à Grenoble, parce que ça a toujours été une ville pionnière, une métropole pionnière, et l'idée de la capitale, enfin la capitale, on n'aime pas trop ce mot-là, mais la ville cœur des Alpes. Et je pense qu'avec cette ADN double innovation-montagne, on a un cocktail incroyable.
Yves Exbraya, directeur de l'Office du tourisme Grenoble-Alpes-Métropole, est au Miroir des sciences sur RKS L'Esprit Grenoblois. On se retrouve dans un instant après une petite pause patrimoniale.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le Miroir des sciences.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens. Il est 10h40, vous écoutez le Miroir des sciences sur RKS. Je remercie François Legrand pour ce saut dans le passé de quelques minutes. Yves Exbraya, notre invité, directeur.
Tout de suite que je suis has-been.
Non, je ne me permettrai pas. Directeur de l'Office du Tourisme.
Je vais faire le commentaire déjà.
Voilà. Donc, Yves Exbraya, directeur de l'Office du Tourisme Grenoble-Alpes-Métropole. On va parler un petit peu d'avenir. Pour vous, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années à venir?
Déjà, une cessation d'activité pour coche d'âge canonique à la fin de l'année.
Très bien.
Mais de cette activité-là, puisque...
D'activité professionnelle, contractuelle.
Voilà, c'est ça. Je vais continuer, je pense, à être un peu consultant sur des problématiques d'innovation, peut-être dans le tourisme. Je vais continuer à m'occuper du Fonds d'aide au cinéma de montagne, qui est une association que j'ai créée en 2011, qui marche bien, mais que j'aimerais redynamiser. Je vais faire plein de choses et voyager encore. Je vais prendre moins l'avion, mais je vais le prendre quand même un petit peu, parce que j'ai encore envie d'explorer des territoires assez lointains. Et puis des projets d'écriture.
Voilà, alors on nous a soufflé à l'oreille que vous aviez un projet, enfin plus qu'un projet, c'est imminent, la sortie d'un livre prochainement.
Ouais. Alors j'ai déjà écrit un livre qui se passait en Himalaya, hein. C'était un récit d'expédition romancé, on va dire, et cette fois-ci c'est complètement différent. Le cadre est effectivement la montagne, parce que je ne sais pas écrire sur autrement, mais c'est plus une fresque sociale, enfin c'est une histoire de rencontres et de rencontres et de coïncidences et de parcours de vie qui fait que des gens à un moment se rencontrent et c'est en montagne. Effectivement, je ne veux pas dévoiler tout et ça s'appellera la synchronie fantastique.
C'est une fiction.
C'est une fiction absolue, mais qui est très inspirée de...
De faits réels.
De comportements sociaux des gens. Quoi. Enfin, oui, en fait, c'est une fiction sociale.
Et la montagne est le décor,
ou
plus que le décor, les lieux où se produisent les choses, c'est important pour vous.
Oui, c'est important, et pour autant, je ne suis pas là pour défendre des valeurs gnangnan de la montagne, les valeurs, les machins, les trucs. Non, c'est un décor, c'est beau, on s'y rencontre, il y a des activités sympas, mais je ne suis pas du tout dans la description lénifiante de cette montagne qui apporterait toutes les ressources. Je l'adore, mais faut pas déconner.
Dernière question, peut-être à débattre, tant que vous êtes là, encore une minute avec nous. Je me tourne vers Damien Boévin. Est-ce que vous écririez votre chronique différemment à la lumière de la conversation et puis des avis que Yves a partagé avec nous?
Clairement, durant l'écriture, j'avais déjà à l'esprit le fait que je suis conscient qu'il y a un côté légèrement dystopique dans cet Alpine Wild Park qui relève du possible, mais pas forcément du souhaitable. Effectivement, c'est vrai que parcourir la montagne dans une espèce de boîte en plastique automatisée qui roule toute seule dans la montagne, ça vend pas forcément du rêve, mais à travers cette fiction, je voulais quand même mettre le doigt sur comment concrètement on pourra concilier préservation de la montagne et augmentation de la part d'écotourisme, en tout cas de tourisme de la nature dans les années à venir.
Ça se conçoit. Effectivement, moi je pense que on aura toujours du monde pour apprécier ce genre de choses. Là, aujourd'hui, il y a des parcs de loisirs, il y a des stations de montagne, il y a des endroits dédiés. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas pour moi, mais pourquoi pas?
Yves Ex-Braya, on vous remercie beaucoup d'être venu.
Et merci de m'avoir accueilli, c'était très sympa.
Passer ce temps du marché au Miroir des Sciences. Merci à vous et puis bonne route. Et puis on attend avec impatience donc la sortie de votre roman. Ce sera quand?
Courant novembre.
Courant novembre. Donc,
je viendrai vous en parler.
Encore un petit peu
le titre peut-être ?
La synchronie fantastique.
La synchronie fantastique. Merci Yves Ex-Braya.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS, on revient dans un instant.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le Miroir des Sciences.
Tu serais mon lascar superstar. de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loubar, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir.
RKS, l'esprit grenoblois, nous évoquions évidemment le patrimoine avec Yves Exbraya, directeur de l'Office du tourisme Grenoble-Alpes Métropole. Et pour évoquer notamment un rendez-vous qui est proposé au grand public la semaine prochaine, nous sommes au téléphone avec Karine Froment, qui est directrice de l'atelier laboratoire Arc Nucléart, qui ouvre ses portes dans le cadre des Journées du patrimoine le week-end prochain.
Bonjour Karine Froment.
Bonjour.
Alors, Arc Nucléart, atelier, laboratoire, que faites-vous dans votre laboratoire si particulier?
Alors, on fait de la conservation et de la restauration d'objets archéologiques, d'une part, en bois, en cuir, en fibres végétales. Et donc, c'est des objets qui ont séjourné longtemps dans le sol, qui sont gorgés d'eau. Et puis, on travaille aussi sur de la restauration, de la conservation et de la restauration d'objets historiques, c'est-à-dire plutôt des sculptures polychromées qui sont souvent un peu moins âgées que les objets archéologiques. Et au service de tout ce travail de restauration, de conservation, il y a une équipe de recherche qui essaye d'améliorer les traitements ou de développer des nouveaux traitements. Et pour cette journée du patrimoine, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est aussi le cinquantenaire d'un traitement que l'on est les seuls au monde à pratiquer, qui s'appelle Nucléart.
Donc vous êtes un peu à la frontière entre la technique et puis le patrimoine. Vous arrivez à parler au public qui viennent pour les journées du patrimoine. Est-ce que vous arrivez à leur parler de technique, de physique en l'occurrence?
Oui, bien sûr. En fait, il s'agit même plutôt de chimie que de physique, parce que c'est beaucoup de chimie. Et on arrive à expliquer, on s'adapte à tous les niveaux de public, puisqu'on reçoit aussi dans les années, on va dire, plus normales, on a des visites d'étudiants, mais aussi de lycéens. Et on s'adapte absolument à tous les publics pour leur expliquer, d'une part, pourquoi ces objets ont besoin de traitement, comment le bois se dégrade dans le temps, pendant l'enfouissement, et puis ensuite la chimie et la physique qui sont impliquées dans les traitements qu'on pratique, tout à fait.
Alors dans votre démarche d'ouverture à l'extérieur, vous avez aussi un concours chaque année pour les communes qui veulent faire restaurer une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, exactement. On a un concours, donc c'est un mécénat du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui est membre de notre groupement, et qui offre chaque année, donc via une somme qu'il nous alloue, une restauration à des petites communes de France qui ont des objets du patrimoine, sont souvent des sculptures, mais ça peut être aussi d'autres types d'objets, qui ont des objets du patrimoine à restaurer et qui n'en ont pas les moyens. Donc, en fait, on ouvre un concours qui donne lieu chaque année à une attribution pour 3 ou 4 communes lauréates. Il y a eu, depuis le début du concours, puisque là on est dans la 19e édition, presque 70 communes lauréates et de nombreuses œuvres restaurées.
70 communes lauréates, c'est énorme.
Depuis 18 ans. Donc depuis 18 ans, on a beaucoup de communes dans quasiment tous les départements de France. Et puis, on a ouvert depuis quelques années le concours aussi pour essayer de disséminer un peu cette expérience à l'étranger, à la Roumanie. Et on a aussi restauré quelques œuvres du patrimoine roumain dans le cadre de ce concours.
Et tout ça, ça se passe à Grenoble?
Et tout ça, ça se passe à Grenoble, dans les locaux d'Arc Nucléart.
Alors, Arc Nucléart se visite le 19 septembre, donc comment est-ce qu'on vient vous voir?
Alors, on est localisé sur le site du polygone scientifique, sur le site du CEA. Et donc, il faut s'inscrire pour visiter. Les visites sont gratuites, mais il faut s'inscrire sur notre site, qui se trouve facilement en tapant Nucléart, Nucleart. On trouve le lien pour s'inscrire.
Nucléart.
Nucléart, voilà, exactement. avec un T à la fin. Et donc, on trouve le lien d'inscription qui donne lieu donc à un aller-retour avec les responsables administratifs de ces visites qui demandent impérativement de fournir une carte d'identité puisque c'est une démarche nécessaire pour entrer sur le site de CEA. Donc, il faut envoyer un scan de la carte d'identité en même temps qu'on s'inscrit pour pouvoir valider la visite. Et donc, on a trois groupes de visites qui sont... Alors, le samedi matin est déjà complet, mais on a encore de la place sur les groupes d'après-midi à 13h et 15h30. 13h30 et 15h, je crois. Voilà. Enfin, tout est écrit sur le site.
Alors, auditrices et auditeurs qui nous écoutez, vous avez bien noté qu'il faut fournir votre carte d'identité et vous dépêcher si vous voulez venir visiter ce laboratoire atelier très particulier. Merci Karine Froment d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice de l'atelier Arc Nucléaire à Grenoble.
RKS, le miroir des sciences, à l'heure où vous faites votre marché sur 97FM. On revient dans un instant.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
sur RKS, vous écoutez le miroir des sciences et vous venez d'écouter Nantes du groupe Beyrouth.
Elle signe une vidéo sur Futura Science avec 10 grands mystères de l'univers et ça fait du bien en ce moment alors que la période est plutôt au pragmatisme totalitaire. Elle, c'est Emma Hollen qui est journaliste scientifique, elle est avec nous par téléphone. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors, vous citez dans l'article qui accompagne votre vidéo, donc sur les 10 grands mystères de l'univers, vous citez Richard Feynman, qui est, dites-vous, l'un des scientifiques et pédagogues les plus brillants de son époque et qui, lui, n'avait pas peur de l'inconnaissance. Vous écrivez que les découvertes les plus récentes et les plus spectaculaires ont toutes apporté de nouvelles pièces à l'édifice de notre compréhension et ouvert des portes sur des questionnements toujours profonds, avec l'espoir qu'un jour, toutes ces portes ne mèneront qu'à une seule. Ce ne sera pas un peu triste quand on en sera là ?
Alors, pour vous répondre honnêtement, je ne pense pas qu'on en arrivera un jour à ce point. La quête d'une théorie universelle motive beaucoup de chercheurs, et notamment les physiciens, avec notamment la fameuse théorie, la théorie du tout. Mais le fait est qu'il y aura toujours, en tout cas selon moi, une part de l'univers qui échappera à notre compréhension. Si néanmoins on devait y arriver, je pense qu'on ferait qu'entrer dans une nouvelle ère d'émerveillement. Si l'univers est régi par un ensemble de lois universelles que l'on peut résumer en quelques lignes ou en quelques équations, je pense qu'on aura encore plus de raisons de s'émouvoir de la diversité absolument incroyable de notre monde. Quand je songe au plaisir d'apprendre au mystère de l'univers, je me souviens régulièrement de l'astronome du XVIe siècle, Giordano Bruno, qui avait fait un scandale en son temps parce qu'il fait partie des premières personnes à avoir affirmé dans sa société que le ciel était rempli d'étoiles comme la nôtre, qu'elles étaient elles-mêmes entourées de planètes qu'on ne pouvait pas voir. Et c'est quelqu'un qui a vécu cette espèce de révélation comme un vrai moment d'élévation spirituelle. et de poésie. Et d'ailleurs, Feynman aussi disait que la science est une façon de mieux accéder à la poésie du monde.
Donnez-nous un aperçu des quelques-uns de ces grands mystères que vous soulignez dans votre vidéo sur Futura Science. Vous êtes appuyé sur le travail de communication de l'European Space Organization, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. D'ailleurs,
excusez mon accent anglais
pour,
à couper au couteau.
Pardon ?
Je dis excusez mon accent anglais à couper au couteau, je crois que le vôtre est meilleur.
Il n'y a pas de mal, j'apprécie l'effort. Non, exactement, et je voudrais en profiter pour souligner le travail de communication absolument admirable qui est fait par les différentes agences spatiales. On parle justement de pragmatisme totalitaire, et je trouve que ça fait un demi-siècle qu'on a mis le pied sur la Lune, et les agences spatiales arrivent encore à communiquer la curiosité et l'émerveillement au public, et voilà, je tenais à souligner ça. Pour ce qui est des mystères de l'univers, j'ai évidemment une fascination pour les questions que pose la physique quantique. C'est une discipline qui est absolument fascinante, que j'ai découverte quand j'avais 18 ans, et qui force un esprit qui sort tout juste du lycée à un remaniement complet de sa perception de la réalité. Mais on a aussi des questionnements qui sont soulevés, par exemple, par la théorie de la relativité, juste cette façon dont ça a chamboulé notre vision de l'espace-temps, savoir que l'univers peut avoir un fonctionnement aussi exotique et qu'on ait des pierres de cet édifice. Moi, je trouve ça fascinant.
Et puis, bien sûr, le mystère de la vie qui reste tout à fait entier.
Oui, tout à fait.
Hélène Hollen à lire sur le site Futura Science, avec de nombreuses productions, dont ce petit film qui réenchante la quête scientifique, 10 mystères de l'univers, de l'énergie noire à la vie, en passant par la croissance incessante de l'entropie, et en quelque sorte c'est le monde qui dégringole inévitablement vers une incessante désorganisation. Tu es poussière, tu retourneras poussière, c'est un peu ça que m'inspire aussi cette prise de point de vue. Merci à vous Hélène, et peut-être à très bientôt si vous acceptez une nouvelle fois de parler avec nous au téléphone sur RTS.
Avec plaisir, Emma, mais avec plaisir.
À très bientôt, au
à
revoir.
Bientôt.
Chaque week-end sur RTS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
On a à peine une minute pour terminer cette émission, messieurs. Damien, Sébastien, je vous ai prévu un quiz. Est-ce que vous reconnaissez ce générique ?
Un chapeau melon et bottes de cuir ?
Oui, voilà. Ben oui, c'était l'égérie de John Steed dans le rôle de Emma Peel, Diana Rigg, qui était également la femme pivot de la personnalité de James Bond dans Au service secret de Sa Majesté. Elle nous a quittés, 82 ans, cette année. Il paraît qu'il faut que je me calme, j'ai encore le temps pour
donc,
faire le
générique. La semaine dernière, c'était Annie Cordy.
Oui,
la semaine dernière, c'était Annie Cordy. On va créer une chronique spécialiste.
Oui, comment est-ce qu'on appelle ça, la nécrologie de la semaine.
C'était le Miroir des Sciences sur RKS, l'esprit grenoblois.
Une émission de François Legrand et Sébastien Berger, réalisée par Jérôme. Merci à Yves Ex-Braya, directeur de l'Office. Merci à Hélène Michel, professeure de Grenoble, école de management qu'on retrouve au Festival Ça Remue, dans et autour le musée du musée dauphinois. Je vais y arriver, du 15 au 17 octobre.
Les rencontres du cinéma de montagne à Grenoble, c'est du 3 au 7 novembre. Et les journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre, donc le week-end prochain. Notamment avec la visite de l'atelier Arc Nucléaire. Merci à Karine Froment, sa directrice, d'être intervenue dans l'émission.
Merci à Damien Bouévin de l'association Nemeton. Et si devant chroniqueur au Miroir des Sciences, vous avez désormais votre ronde serviette chez nous, on vous retrouvera dans un mois, j'espère.
Vos commentaires, vos idées, vos réactions sur la page Le Miroir des Sciences sur Facebook ou sur la page radio RKS. Émission à réécouter en podcast sans modération à partir du site web de la radio.
On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et toujours sur RKS. Et dans un instant, l'info, puis la cuisine de Francis. Bonne journée sur RKS.